Philosophie première pour le Père Marie-Dominique Philippe, le 6 février 2002 à Saint-Judas.
Je réponds à des questions. Pouvez-vous donner un exemple d'un être purement mathématique? Il n'y a pas d'exemple. Créer un être purement mathématique. L'âme, elle n'est pas purement mathématique. Le corps n'est pas purement mathématique. Donc, d'un être purement mathématique, c'est dans l'esprit. On peut avoir un esprit mathématique. On peut avoir un être mathématique. Donc, c'est contradictoire. Donnez-vous un exemple d'un être purement mathématique, ça n'existe pas. Un être purement mathématique n'existe pas. L'âme n'est pas purement mathématique. Le corps n'est pas purement mathématique. Alors, c'est l'esprit. On peut avoir un esprit matheux. Et purement matheux, ça existe. Donc vous avez dit qu'il pourrait le construire. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais c'est pas étonnant. Un être purement mathématique n'existe pas. Un être qui dit être, dit exister. Moi, je présume que c'est exister. C'est un être existant. Un être mathématique est un être de pure raison. Alors un être de pure raison n'existe pas, puisqu'il est de pure raison. Et que l'existence n'est pas de pure raison. Donc un être purement mathématique, c'est la construction d'un mathématicien. Et ça n'existe pas. Le mathématicien n'est pas créateur de l'être. Mais il peut y avoir un monde qui tend à être purement mathématique. Descartes considère que les mathématiques, c'est ce qu'il y a de plus parfait. Donc on tend, mais il ne dit pas qu'il y a un être mathématique. On tend. Oui. L'être mathématique, il est dans l'esprit du mathématicien. Alors qu'il y ait un esprit qui soit entièrement mathématique, ça n'existe non plus jamais, parce que cet esprit existe. Mais qu'il y ait un esprit mathématique qui se forme et qui tend à être purement mathématique, ça oui. Ça peut être un idéal. Ça reste un idéal. Mais du fait qu'il est vivant, il n'est pas mathématique. La vie n'est pas mathématique. Si vous voulez, comme ça, vous pouvez le saisir mieux. La vie n'est pas mathématique. L'être métaphysique n'est pas mathématique. L'être qui existe n'est pas mathématique. Il est finalisé. Du fait qu'on est finalisé, on est au-delà des mathématiques. Les mathématiques ne regardent pas la finalité, mais l'exemplarité. Ils se forgent des modèles, un modèle. Et donc, je ne comprends pas ce que cela veut dire. C'est vous mettez d'un côté l'être, de l'autre côté l'être mathématique. Et vous voyez que l'être implique un être existant. Donc, ayant sa substance, ayant sa nature, il existe. Ayant une finalité, il existe. Et l'être mathématique, il est purement dans la pensée du mathématicien. Alors, la pensée du mathématicien peut tendre à n'être que mathématique. Alors, l'être mathématique, qu'est-ce qu'il est ? Une relation. Une relation peut être réelle et de raison. C'est une relation de raison. L'être mathématique, il n'existe pas. Il y a un article, je n'ai pas la référence ici, dans la revue Sciences philosophiques et théologiques sur l'être mathématique. C'est du père Gérard Deslauriers. Avec le père Gérard Deslauriers, qui était un vrai matheux, on a discuté longuement sur qu'est-ce que c'est que l'être mathématique. C'est intéressant, du reste, de porter la critique sur l'être mathématique. Vous pouvez y penser, parce que l'être mathématique... Tous, on a fait un peu de mathématiques, même si on n'est pas un matheux. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être mathématique ? C'est pas l'être réel. Le crapaud n'est pas un être mathématique. C'est un être vivant. L'être mathématique, je le saisis quand un mathématicien me donne son raisonnement. Vous avez dit que les animaux sont pleinement dans le devenir et qu'ils ne sont pas reliés directement à Dieu, tandis que l'homme l'est par son esprit. Mais est-ce que les deux, par son être et son esprit, oui. Mais est-ce que les deux ne sont pas, quant à leur être, oui, c'est sûr, quant à leur être, mais l'être de l'animal, qu'est-ce qu'il est ? Il est dans le devenir. Quand l'animal meurt, qu'est-ce qui reste ? Son âme ? Posez-vous la question, quand une vache meurt, elle disparaît. Son être disparaît, elle meurt. Son être est dans son devenir. Il est son devenir. Il n'a pas d'être séparé du devenir. Mais elle existe, la vache. Mais c'est évident, le devenir existe. Quand je dis devenir, je ne veux pas dire n'existe pas. Il y a un être substantiel et un être dans le devenir. Je veux dire qu'il n'y a pas de substance au sens fort dans la vache. Un principe d'être. Pour Aristote, les animaux ont une âme, mais il faut faire attention. Hein. C'est justement une âme qui n'existe que dans le devenir et qui n'est pas éternelle. Tandis que nous, lorsque nous mourons, notre âme se sépare de notre devenir, le corps. Et nous existons dans notre âme, et par notre âme, notre substance. Mais quand la vache meurt, on ne fait pas d'enterrement. Parce que la vache meurt. Alors, si on voit tout de suite si on peut la manger ou pas la manger. Et si elle est malade, on ne peut pas la manger. Mais si, elle est morte accidentellement, sans une maladie qui puisse contaminer l'homme, on la mange. Quand vous mangez l'âme, vous dites, je ne mange pas son âme. Où est-ce qu'elle est, son âme? Faut comprendre des réalités. C'est du reste comme ça qu'on a pu dire que l'être est purement devenir. Ça existe dans la philosophie, des philosophes qui disent que l'être est purement relatif, c'est purement le devenir. Pourquoi disent-ils ça? C'est parce qu'ils ont un exemple frappant, la vache. S'ils n'avaient pas l'exemple frappant, la vache, ils diraient ça. C'est pas commode, mais vous comprenez, la philosophie a mis des années et des années pour distinguer l'être et le devenir. Si elle a mis si longtemps pour devenir l'être et le devenir, ça prouve que c'est pas si facile que ça. Parce qu'elle était dans un positivisme absolu. Le devenir, il se voit. Et l'être du devenir. Il y a un être dans le devenir qui n'existe que dans le devenir. L'être de la vache n'existe que dans son devenir. Mais elle existe, la vache. Donc je peux parler de l'être de la vache, c'est sûr. Mais cet être est totalement conditionné par son devenir. L'être n'a pas d'absolu, comme nous avons un absolu dans notre être par notre âme. Et c'est un problème très important, parce que ça va revenir, c'est actuel du reste. Ceux qui ne veulent pas d'âme considèrent que l'homme est un pur devenir, comme la vache. Il n'y a plus rien. Et c'est pour ça qu'ils veulent l'incinération, parce qu'il n'y a plus rien, et donc il n'y a plus rien par le corps. Ça devient très important pour nous. Quand vous êtes en face d'un biologiste qui vous affirme qu'il n'y a pas d'âme, à Lausanne, à l'université de Lausanne, il y a 20 ans de ça, le professeur de philosophie me disait, tous mes étudiants refusent l'existence de l'âme. Et c'est pour ça qu'il m'avait demandé, faites-leur une fois un cours pour montrer que l'âme existe. Parce qu'il m'avait dit, moi, je n'arrive pas à leur faire comprendre qu'il y a le corps et l'âme, et que l'âme est une réalité. Vous voyez, ça va devenir très très vite. Très très vite, nous allons avoir tous les gens qui, du moins, beaucoup de personnes qui pensent en disant que l'âme n'existe plus. Et on va... contre le christianisme, contre la religion chrétienne, en affirmant que l'âme ne va pas. Un positivisme. Et ça gagne vite, ça va très vite. C'est pas étonnant. Ça a mis en Grèce des années et des années, des centaines d'années, arriver à la distinction de l'âme et du corps. Et alors, vous avez Platon et Aristote. Déjà, l'âme, déjà l'être était distingué avec Parménide, mais d'une façon assez grossière, c'est-à-dire un peu comme deux réalités, l'être d'une part, et puis d'autre part le devenir. Alors à côté de vous, vous avez quelqu'un qui n'est que devenir, et vous, vous êtes être. Alors, un partage purement artificiel. Il n'y a pas de raison que votre voisin soit uniquement devenir. Ben, un jour, il mourra. Vous voyez bien qu'il est dans le devenir. Un jour, il disparaîtra. Et vous ne verrez pas son âme. Et c'est vrai. Arriver à distinguer l'âme et le corps, c'est un dépassement du positivisme. Bon, pendant de nombreuses années, la religion aidant, les gens croyaient âme et corps. La religion disparaissant, ils redeviennent positivistes. Ça m'avait beaucoup frappé. Alors, comme je ne pouvais pas donner de cours à l'université, puisque j'étais catholique venant de Fribourg, c'était absolument interdit. Le bon professeur m'avait dit, le seul moyen, c'est que je les invite à venir tous le soir chez moi et nous ferons un séminaire là. Et c'est ce qu'on a fait pendant toute la nuit, pendant toute la soirée. C'était très intéressant. Pour montrer qu'il y a une distinction réelle entre l'âme et le corps. On en arrive à ça. Il faut que vous-même, vous arriviez à pouvoir montrer philosophiquement, par un raisonnement philosophique, que l'âme existe en vous et dans celui à qui vous parlez. Et qu'à la mort, ce n'est pas fini. L'âme existe. On revient, c'est pas étonnant, parce qu'on a tellement négligé à réfléchir sur la vraie philosophie qu'on arrive à reprendre ce qu'en Grèce on a fait des années, pour arriver à distinguer l'âme et le corps. Or, l'animal n'a pas d'âme spirituelle. Or, c'est parce que l'animal n'a pas d'âme spirituelle, qu'il n'y a pas de création de l'âme de la vache. La vache n'est pas petite-fille de Dieu. Mais elle existe. Elle n'est pas petite-fille de Dieu. Et pas petite-fille de l'homme. Elle est petite-fille de la vache. Alors, on revient à vraiment réfléchir comment montrer à quelqu'un. C'est un très bon exercice, hein, et c'est un exercice philosophique, vous pouvez le faire. Chacun d'entre vous. Vous êtes devant quelqu'un, un biologiste, qui vous affirme « l'âme n'existe pas, je n'ai jamais vu l'âme au bout de mon bistouri ». Vous êtes conchedo totalitaire. Je n'ai jamais touché avec mon bistouri l'âme. Jamais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais n'existe pas seulement le monde sensible. Il existe autre chose que le monde sensible. Le psychologique, tout le monde l'accepte. C'est déjà un monde qui n'est pas entièrement sensible. Pourquoi certains jours vous dormez au cours? pourquoi d'autres jours vous êtes attentif. Votre âme est éveillée, tandis que votre âme n'est pas toujours réveillée à la sonnerie. Elle n'obéit pas au réveil, automatiquement. Et vous vous réveillez avec... Il y a des gens qui mettent longtemps de se réveiller. Il faut qu'ils voient toute la matinée. Ben, ils surveillent, ils sont là présents, mais ils continuent de rêvasser. Ils ne sont pas présents. Ils n'ont pas fait d'acte humain. Vous vous réveillez quand vous faites un acte humain. Ah. Alors là, vous vous réveillez quand vous faites un acte humain. Il faut s'habituer à se réveiller en faisant tout de suite un acte humain. La prière est un acte humain. Et alors, Dieu, qui est créateur, crée un être qui subsiste en lui-même. Un être comme l'animal ne subsiste que dans son devenir. Or, Dieu ne crée pas directement le devenir. Il crée l'être, et par l'être, il touche le devenir. Mais il crée l'être directement. La création regarde l'être, pas le devenir. Et c'est une chose qui est très importante, toucher ça. Dieu gouverne le devenir. Oui, c'est vrai, il gouverne le devenir. Il gouverne le devenir de la vache. Vous voyez, pas directement. Seul l'homme, il regarde l'homme pour lui-même. Ah. Tandis qu'il regarde la vache pour l'homme. À cause de l'homme, il s'intéresse à la vache. Mais uniquement à cause de l'homme. Parce que si vous avez un taureau capable de vous tuer, Dieu s'intéresse à lui. Vous voyez ? Donc, il s'intéresse aux gens qui sont capables de vous tuer. Ou capables de vous faire du bien. Mais alors, vous avez dit, les animaux sont pleinement dans le devenir. Ils sont pleinement dans le devenir, c'est-à-dire leur être coïncide avec leur devenir. Et qu'ils ne sont donc pas reliés directement à Dieu. Ils ne sont pas créés directement par Dieu. Dieu s'occupe des causes secondes, de l'ordre qu'il y a dans les causes secondes. Et c'est dans ce sens-là qu'il gouverne sur la naissance de la vache. Tandis que l'homme l'est par son esprit, par son être. C'est pas seulement par son esprit, par son être. Et c'est vrai que l'être est au-delà du devenir grâce à l'être spirituel. Puisque les deux ne sont pas quand même, ne sont pas quant à leur être. Un être qui est complètement pris par le devenir, qui n'existe que dans le devenir, n'est pas directement dépendant du Créateur. Dieu gouverne son devenir. haricots secondes. Quand même, voyez, je crois que vous faites attention que Dieu s'intéresse plus à vous qu'à la vache. Je crois que ça, spontanément, il y a quelque chose quand même. Hein. Vous croyez que Dieu s'intéresse autant à la vache qu'à vous? Ça, c'est très vache. Il ne s'intéresse pas autant à la vache qu'à vous. Il s'intéresse à la vache par tout l'organisation des causes. Dessus. Et pas directement. L'écriture est très nette là-dessus, hein, dans le livre de la sagesse. L'homme aime, Dieu aime l'homme pour lui-même. Tandis qu'on ne peut pas dire que Dieu aime la vache pour elle-même. Et ça, il faut le découvrir soi-même, hein, la distinction entre être et devenir. Et comprendre comment l'être peut être par lui-même. C'est ça la substance. Être par soi. Et s'il n'y a pas de substance, il n'y a pas être par soi. Il y a être dans le devenir. Et le devenir est toujours dépendant d'un autre. La distinction de l'être et de devenir est quand même la première distinction que nous devons faire. Vous avez aussi parlé, je dis beaucoup de choses, n'est-ce pas, des causes secondes par lesquelles Dieu a créé le monde physique. Oui. Ou plus précisément, par leur intermédiaire, par intermédiaire. Et en rigolant, vous avez dit que Dieu ne voulait pas se salir les mains aux choses secondes. Est-ce que cela veut dire que Dieu n'est pas créateur du monde physique? Est-il créateur de la vache? Ben, je vous posais la question, et vous devriez répondre oui ou non. Là, vous mettrez un intermédiaire. Est-il créateur du devenir? Vous voyez comment? Vous êtes obligé de préciser, Dieu est créateur de l'être, et pas du devenir. Au sens rigoureux. Et c'est cette fameuse question, Dieu est créateur du devenir par les causes secondes. C'est très important ça, et ça a des conséquences énormes dans votre vie spirituelle. Parce que il y a une confusion. Confusion entre l'être et le devenir. Et la confusion entre l'être et le devenir aboutit à des tas de bêtises. Et c'est pour ça que c'est très élémentaire, je suis tout à fait d'accord, c'est très élémentaire, mais c'est très, très difficile à bien voir cela. Il ne faut pas chosifier l'être. Il ne faut pas chosifier le devenir. Il faut comprendre que la distinction être et devenir est une distinction que nous faisons constamment. Ceci est jugement d'existence. Mais il est comment? Par Dieu ou par les causes secondes? Quand vous dites « cette vache existe », oui, elle est Mais comment est-elle? C'est qu'elle a été veau et qu'elle a été dans le ventre de sa mère. Petit veau. Donc, par l'intermédiaire des causes secondes. Et toutes ces causes secondes existent et par le fait même dépendent de Dieu, mais par les causes secondes, pas directement. Autrement, vous allez tout diviniser. Vous divinisez la vache. Comment on fait ça? Comment ça peut se faire? Diviniser la vache. La vache rousse. Elle est divine. Parce que vous dites que Dieu s'en occupe. Oui, Dieu s'en occupe. Pas directement. Par les causes secondes. Donc la distinction de l'être et de devenir est tout à fait élémentaire pour la vie religieuse. Autrement, on fait du syncrétisme. Et constamment, les gens font du syncrétisme. Donc, il faut bien comprendre que Dieu, quand nous disons que Dieu est le créateur de l'univers, c'est là la grosse question. Globalement, de l'ordre de l'univers. Dieu. Un jour, deux jours, trois jours. Ça, c'est la Bible qui dit ça. C'est pour nous aider à comprendre. Mais Dieu n'a pas réalisé un jour, puis s'est reposé. Deux jours, il s'est reposé. Non. Là, ce serait prendre matériellement les choses qui ne seraient pas justes. Dieu a créé l'ordre de l'univers par sa sagesse. Il a créé des causes secondes. Et la dépendance des causes secondes entre elles. Et Dieu a créé directement là. Donc, il y a une relation différente à l'égard de Dieu créateur quand vous prenez un animal et quand vous regardez votre âme. Ça, vous pouvez très bien faire la distinction. Il faut le faire. La vache n'est pas en relation directe avec Dieu. Alors, donc, Dieu a créé l'ordre de l'univers. Ça, c'est sûr. Et ça relève de la sagesse de Dieu. Et dans cet ordre de l'univers, il y a tout l'ordre des causes secondes. Et il a créé l'âme humaine directement. Sans l'intermédiaire, vous voyez, quand je dis directement, et il y a l'intermédiaire des parents. Puisqu'il a créé l'âme humaine dans un corps existant. Et au moment où il a créé l'âme humaine dans un corps existant, le corps, par l'âme, a pris son existence propre. C'est par son âme. Avant, il n'avait pas d'existence propre. Il avait l'existence de ses parents. Et dans le prolongement, c'est quoi? Comme cause seconde. Mais nos parents ne sont pas cause directe de l'âme. Ils sont cause seconde au point de vue de la vie, étant père et mère. Ils sont cause de ce devenir vital. Que cela veut dire que Dieu n'est pas créateur du monde physique. Dieu est créateur du monde physique, mais il est différemment que de l'homme. Quelle cause seconde aurait donc créé la matière ? Quelle cause seconde aurait créé ? Mais attention, la matière est créée en même temps que la forme. Elle est concrète, comme disent les théologiens. Dieu n'a pas créé la matière toute seule, non ? Ce serait en dehors de sa sagesse. Il a créé un ordre dans les causes secondes. La matière n'existe pas toute seule. Alors, quelle cause seconde aurait donc créé la matière ? Mais aucune cause seconde n'a créé la matière. Dieu a créé la matière par les formes. Il a créé des réalités qui sont dans le devenir. Il les a créées liées à tout un milieu, l'atmosphère. Dieu a créé l'atmosphère. Parce que l'atmosphère dépend de tout un ordre des causes. Dieu n'a jamais créé séparément un élément. Non. Et alors, c'est pour ça que la Bible, pour nous faire comprendre ça, divise par les jours. C'est une manière de nous éduquer. Parce que c'est pas commode de nous éduquer à l'égard du Créateur. Parce que nous n'avons pas assisté à la création. La création était déjà faite. Donc on n'a pas assisté à la création. Mais nous savons que Dieu était à l'origine du monde. Comment s'est fait le début, je n'en sais rien. Et philosophiquement, je ne peux pas en parler. Bon, le savant essaie d'en parler par le Big Bang ou par quelque chose comme ça. Ça, c'est imaginatif. Je ne sais pas. Parce que je suis un être qui dépend de ce monde. Je n'ai pas été avant. Par mon corps, je suis dépendant de ce monde. Et je suis dépendant de toutes ces causes secondes, tout l'atavisme. Je suis dépendant. Et cette dépendance est relative à la dépendance beaucoup plus profonde, fondamentale, Dieu créateur de mon âme. Alors, c'est très important de réfléchir là-dessus. On voit tout de suite la différence entre le travail de Dieu, qui est le Créateur. Dieu agit sur l'être. Et tout le milieu qui permet à l'être d'exister dans le devenir, ça vient de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est de créer un monde ordonné dans lequel la vie peut apparaître et se développer. Et c'est extraordinaire de voir tout ce qui est nécessaire pour le développement du vivant. Ça, je crois qu'il y a là quelque chose d'important de comprendre, l'ordre des causes secondes. l'homme, par son travail, ne touche pas et n'atteint pas l'être. Il ne peut toucher que le devenir. Il peut modifier le devenir lors des causes. Il peut modifier ça. C'est pour ça que l'atmosphère qui dépend de toute une certaine harmonie, donc un ordre dans les causes secondes. On s'est demandé justement si dans les dernières expériences qu'on a pu faire nucléaires, si on ne touchait pas à l'équilibre de l'atmosphère. Par les causes secondes, comme c'est quelque chose de très radical, la désagrégation de l'atome. On n'est jamais encore arrivé à ça. De notre temps, on est arrivé il n'y a pas si longtemps. Et on s'est demandé, et certains savants se sont demandés, et c'est du reste à cause de ça qu'on a arrêté. Parce que peut-être qu'on touchait si profondément, alors on ne touchait pas l'être, mais on touchait à l'ordre très radical du monde physique. L'atmosphère, quand on étudie l'atmosphère, on voit que c'est quelque chose de formidable de voir l'enchaînement de toutes les causes secondes qui sont là pour permettre aux vivants d'avoir un milieu de vie. Le monde, pour nous, est un milieu vivant qui permet aux vivants de vivre. Et on voit que c'est tellement finement organisé que ça demande une intelligence, une sagesse. Je crois que uniquement étudier l'atmosphère permettrait de dire qu'il y a nécessairement un Dieu souverainement intelligent pour réaliser l'atmosphère. Et que l'homme, par son travail, par son génie, ne peut pas réaliser l'atmosphère, mais il peut le détraquer. Vous voyez, c'est très curieux que la puissance s'exprime d'abord par la négation. On peut supprimer un ordre dans l'atmosphère et on est incapable de le rétablir. Et c'était la grande crainte des grands savants. On touche peut-être à quelque chose dont on ne sait pas les effets. Dans ces expériences qu'on faisait, très bien, on arrivait à faire cette expérience, mais on ne savait pas l'effet. Et on touchait peut-être à quelque chose qui désorganisait l'atmosphère lentement, très lentement, dont on en verrait les effets 20 ans après, 30 ans après, 40 ans. Et on ne pourrait pas revenir en arrière. Il y a quelque chose comme ça du raisonnantisme qui dépend d'une quantité de causes secondes entremêlées, équilibrées, s'opposant. On voit, on constate que nous dépendons de tout un milieu de vie, que ce milieu de vie, on peut le détraquer, et le péché a toujours une conséquence de désordre dans le monde physique. le péché désorganise, puisque le péché a toujours un lien avec le corps, avec le monde physique. Et quand le péché va très profondément, c'est ce qui est arrivé, la première faute a une conséquence sur l'équilibre de l'homme. C'est très curieux de voir que l'homme, par le point de vue négatif, touche quelque chose, quelquefois, qu'il ne peut pas réparer. Donc quelque chose qui lui échappe. Et qu'il ne peut pas reprendre. Il y a comme un absolu dans la négation. Et c'est très intéressant philosophiquement de regarder ça, parce que ça fait comprendre comment il peut y avoir des philosophies négatives. Sartre, il est fasciné par l'absolu. Or, l'absolu, nous le trouvons où dans la finalité, ou dans la destruction. C'est l'un ou l'autre. L'absolu, on le trouve dans l'amour à l'égard d'une personne, ou dans la négation. Et ça se tient. Ces deux absolus. Si vous ne trouvez pas dans l'amour, donc dans la cause finale, vous le chercherez dans la négation. La négation a ce pouvoir très particulier de pouvoir être quelque chose d'absolu qu'on ne peut pas reprendre. Donc, le relatif, c'est tout ce que vous pouvez reprendre. Tout ce que vous pouvez reprendre est relatif. Ce que vous ne pouvez pas reprendre, c'est absolu. Alors, il y a les deux extrêmes. Et depuis un certain temps, l'homme a quitté l'absolu de la finalité et s'amuse dans la négation, oubliant que s'amuser par la négation, on peut toucher des choses qu'on ne pourra pas reprendre. Et un petit gosse s'amuse au feu. Pourquoi les enfants sont-ils fascinés par le feu ? Ils sont fascinés. Les allumettes, le feu. Il y a une certaine image symbolique de l'amour, de la causalité finale, qui attire. Et ils ne voient pas les conséquences quand ils s'amusent, s'amusant avec le feu. Et quand ils vont trop loin, on ne peut plus reprendre. Alors, il y a un mythe sur la découverte du feu. N'oublions pas ça. Et Marx a fait cela pour sa licence. La découverte du feu, Prométhée. Le mythe Prométhée. C'est quelque chose d'extrêmement curieux et fascinant. On a besoin du feu pour pouvoir être forgeron. Et en étant forgeron, on a un art qui va beaucoup plus loin que le premier art qui consiste. consiste à construire une roue. L'art a commencé par la construction d'une roue. Et c'est vrai, c'est quand même quelque chose, la découverte de la roue. Ça a fait la possibilité de transporter des quantités de choses, la brouette, puis les roues. Alors, voyez, vous pourriez regarder la civilisation du monde par la conquête de la roue. Chose très étonnante. Les avions, il faut que les roues tiennent bon. Hein. La vitesse. Avant de voler dans l'air, vous roulez par terre. Et vous revenez toujours à ce début. Qu'est-ce que c'est que c'est la technique, c'est l'art qui commence. Ça a commencé comme ça. Et on s'amuse encore à voir les grandes roues. N'est-ce pas ? On a construit une roue énorme, avec des petits sièges. On s'amuse. Il y a quand même quelques points de vue primitifs de l'art pour conquérir le monde, pour le dominer et pour s'en servir. Et il faut regarder là les mythes qui commencent par la conquête du feu. Et avec la conquête du feu, l'homme peut aller très loin. Il a capté le feu. Alors, je comprends comment l'art est une dimension nécessaire à l'homme, une dimension de sa personne. Réaliser quelque chose, l'art artisanal. Et on voit très bien de Prométhée à Marx et de ce qui se passe maintenant, la conquête par la roue TGV. La conquête de l'espace, du temps. L'homme est mesuré, il est conditionné par le point de vue du temps, il est conditionné par le point de vue du lieu. Alors, la conquête du temps, la conquête du lieu, pour pouvoir s'en servir, je ne peux servir de quelque chose que quand je le domine. Alors, vous êtes dominé par le temps, vous êtes dominé par le lieu et vous cherchez à le conquérir. L'homme, de façon éperdue, cherche cela. C'est très important de comprendre comment l'imagination va se fourrer dans cette espèce de désir de conquête qui veut aller à l'infini.